écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal avec un départ et des retours. Le départ, c'est celui d'Abdelaziz Bouteflika qui cède finalement à la pression de la rue et qui renonce à briguer un cinquième mandat. Les élections présidentielles sont reportées. On sera à Alger dans un instant et on entendra également l'analyse de l'historien Benjamin Stora. Les retours, il y en a deux. Celui de Zidane pour entraîner le Real Madrid, énorme surprise. Et celui de Bernard Tapie devant la justice, très combatif, sans surprise. Dans ce journal, on reviendra également sur le crash du Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines et la sécurité du 747 MAX 8 en question. C'est le deuxième crash d'un appareil de ce modèle. Plusieurs pays et compagnies ont décidé de ne plus le faire voler en attendant des explications. Le temps sera agité demain sur les régions du Nord-Ouest avec des pluies soutenues et des vents forts en bord de Manche et entre le Val-de-Loire, le Val-Atlantique, l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Sur les autres régions du Sud et de l'Est, en revanche, pas mal d'éclaircies. Prévision météo complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'Interview Éco et c'est François Geffrier ce soir. François qui reçoit le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi.
Europe 1.
Après plus de trois semaines de contestation et de mobilisation inédite, les Algériens ont donc obtenu ce qu'ils réclamaient. Leur président Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un cinquième mandat. Il jette l'éponge et la présidentielle est reportée, Jeanne Bergaoui.
Effectivement, Abdelaziz Bouteflika cède à la pression de la rue dans une longue lettre adressée à la nation et en particulier à la jeunesse. Le président se veut compréhensif pour apaiser les appréhensions. Il l'écrit très explicitement. Il n'y aura pas de cinquième mandat. Il n'en a jamais été question pour moi en raison de son état de santé et de son âge, dit-il. L'autre grande annonce, c'est donc le report de l'élection présidentielle du 18 avril à une date ultérieure encore inconnue. Dans cette longue lettre, il évoque également la création d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique, mais surtout d'élaborer un projet de constitution d'ici la fin de l'année. De son côté, le Premier ministre Ahmed Ouyaya vient de présenter sa démission. Il a été immédiatement remplacé par le ministre de l'Intérieur Noureddine Bédoui en charge de former un nouveau gouvernement. Des annonces accueillies avec joie dans le pays. De nombreux manifestants continuent de se rassembler spontanément dans les rues de la capitale pour fêter ce qu'ils appellent une première victoire face au pouvoir.
Jeanne Bergaoui, et justement, on va tout de suite écouter cette joie ce soir dans les rues d'Alger, captée par le micro de notre correspondant Nour Chahin.
Déjà là, on est là pour fêter une première victoire. On est là pour fêter la non-réélection du président de la République. Mais attention, il faut rester vigilant. C'est pas encore fini.
Je suis très contente, mais on attend la suite. Si c'est un grand, si c'est le vrai changement ou pas. Là, on attend, on est très content, mais on va voir la suite.
Eh ben, annuler les élections, on est contre. Ne pas se porter candidat, ça c'est un fait. Mais annuler les élections, pourquoi ? Il y a d'autres candidats, alors on ne respecte pas les autres candidats.
Des Algériens qui sont descendus dans la rue ce soir à l'annonce du renoncement du président. Ils étaient avec le correspondant d'Europe 1, Nour Chahin. La France, par la voix du ministre des Affaires étrangères, salue cette décision d'Abdelaziz Bouteflika. Paris exprime l'espoir d'une nouvelle dynamique à même de répondre aux aspirations profondes du peuple algérien afin qu'il puisse s'engager rapidement. Benjamin Stora est historien spécialiste de l'Algérie. Pour lui, en tout cas, ce renoncement est historique, même s'il est encore trop tôt pour parler de l'aube d'une nouvelle ère dans ce pays.
C'est un moment historique, bien sûr, très important pour l'Algérie, parce que il faut savoir qu'en Algérie, jusqu'à présent, le pouvoir ne cédait pas vraiment à la rue. On se souvient, par exemple, qu'en 2001, il y avait eu une manifestation très importante de Kabyle qui s'était soldée par une très grande répression et le pouvoir n'avait absolument pas cédé sur les revendications qui étaient exprimées. Et on peut comme ça remonter en arrière. C'était pratiquement très rare que le pouvoir cède. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de renoncement. Là, maintenant qu'il renonce, je pense qu'il y aura effectivement la volonté de compromis politique entre les différentes formations. On peut aussi espérer que beaucoup de gens attendent et sont patients pour une transition politique démocratique, parce que derrière la question du cinquième mandat de Bouteflika, bien sûr, on le sait, c'était une revendication qui touchait l'ensemble de fonctionnement du système algérien.
L'historien et spécialiste de l'Algérie, Benjamin Stora, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce soir sur Europe 1.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h05 et c'est la suite de votre grand journal. Il y avait urgence. Il fallait un sauveur après l'humiliation contre l'Ajax Amsterdam et l'élimination en Ligue des Champions. Le Real Madrid a donc fait appel au meilleur d'entre tous, Zidane, de retour comme entraîneur, poste dont il a démissionné il y a 9 mois. Bonsoir Henri Delaguerie.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 sur place en direct de Madrid. Alors les choses, effectivement, n'ont pas traîné. C'est le retour de l'homme aux trois Ligues des Champions qui a tenu une conférence de presse tout à l'heure.
Effectivement, accompagné de sa femme et de joueurs légendaires du Real comme Raúl ou Roberto Carlos, le Français, sourire aux lèvres, s'est dit heureux de revenir à la maison. Devant une centaine de journalistes en jean basket, veste et chemise blanche, il a expliqué qu'il s'était bien reposé pendant ces 9 mois loin des terrains. Mais après avoir tout gagné en 2 ans et demi, il sait que ce retour sera difficile.
C'est le plus gros défi, bien sûr, c'est le plus gros défi, forcément, de toute façon, parce que c'est une deuxième fois, c'est quelque chose, voilà, après avoir gagné. Maintenant, je suis animé par autre chose, c'est un deuxième projet qui se met en place pour moi, pour les joueurs, pour le club, pour les supporters. Et je vais essayer de relever le défi, parce que j'en ai envie profondément, c'est juste ça qui m'anime. J'ai envie de nouveau entraîner.
Oui, mais Zidane reprend une équipe en déliquescence qui, sauf énorme surprise en championnat, ne remportera rien cette saison. Tout est à reconstruire et les 11 matchs à venir avant la fin de la saison permettront surtout de préparer l'avenir. Des joueurs ont du souci à se faire. Gareth Bale ne restera sans doute pas et Zidane aura les moyens de ses ambitions cet été. Cristiano, rappelons-le, n'a jamais été remplacé. Alors forcément, c'est le PSG qui a du souci à se faire car le Real fera tout pour recruter cet été Neymar ou Mbappé.
Et merci beaucoup Henri Delaguerie en direct de Madrid, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal et un grand amateur de foot devant la justice, Bernard Tapie. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h07 et Bernard Tapie est jugé depuis cet après-midi par le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie et détournement de fonds publics. C'est un procès qui va durer plusieurs semaines et qui porte sur l'arbitrage rendu en sa faveur en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Arbitrage depuis annulé pour fraude. Bernard Tapie doit rembourser les 400 millions d'euros qu'il a touchés. C'est un homme affaibli, bien sûr, par le cancer, mais très combatif qui s'est présenté aujourd'hui devant la justice, Chloé Triomphe.
Oui, effectivement, Bernard Tapie est arrivé par une porte dérobée dans la salle d'audience en évitant caméras, micros et photos à son arrivée. Il avait les traits marqués par son combat contre la maladie, mais visiblement, il était très déterminé à livrer son combat face à la justice et aussi dans l'opinion publique. Il n'a donc pas hésité aux suspensions de cette première journée d'audience entièrement consacrée à des éléments de procédure, demande de renvoi du procès, questions préjudicielles, c'est du droit très technique, à s'adresser donc directement aux journalistes dans une sorte de mini-conférence de presse improvisé dans la salle où d'une voix forte il n'a cessé d'argumenter, chiffre à l'appui, sur la façon dont il estime avoir été lésé par le Crédit Lyonnais pour convaincre de son bon droit dans cette affaire d'arbitrage. Et plus tard, depuis sa chaise au premier rang, Bernard Tapie s'est régulièrement retourné vers la salle comme pour vérifier si l'assistance était sensible ou non aux arguments de ses avocats. Bref, un Bernard Tapie fidèle à son image, conscient de son pouvoir de conviction, de son charisme et de l'intérêt qu'il suscite. D'ailleurs, petit clin d'œil, la profession qu'il a déclarée au tribunal n'est pas celle d'homme d'affaires mais d'acteur. Quant au fond, eh bien, les débats n'ont pas vraiment commencé aujourd'hui, mais le procès va durer jusqu'au 5 avril maximum avec des audiences qui promettent d'être animées entre autres par la citation de témoins prestigieux dont Jean Perlevade, l'ancien PDG du Crédit Lyonnais à l'époque du rachat d'Adidas, ennemi intime de Bernard Tapie. Quant à Christine Lagarde, elle aussi citée comme témoin, elle a en revanche fait savoir qu'elle ne serait pas disponible.
Chloé Triomphe qui suit pour Europe 1 ce procès de Bernard Tapie au tribunal correctionnel de Paris. L'ultime provocation aujourd'hui de Mehdi Nemmouche alors que la prison à vie a été requise à son encontre pour la tuerie du musée juif de Bruxelles. La vie continue, a-t-il lancé au juge avec un sourire en coin, les 12 jurés qui délibèrent actuellement. Jour de deuil national en Éthiopie après le crash hier d'un Boeing 737 dans lequel 157 personnes ont perdu la vie, dont 9 Français. Peu après le décollage d'Addis Abeba, les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. On espère qu'elles permettront d'apporter des réponses aux nombreuses questions qui restent en suspens autour du crash de ce modèle d'avion, le Boeing 737 MAX 8, qui est au cœur de beaucoup d'interrogations, Aurélien Fleureau.
Il est trop tôt pour se prononcer sur l'accident survenu hier en Éthiopie, mais Boeing a tout de même fait savoir qu'aucune consigne de sécurité supplémentaire ne serait communiquée aux compagnies aériennes qui opèrent des 737 MAX 8, ce qui veut dire pour le constructeur américain qu'il n'y a pas de doute sur la fiabilité de ces appareils, qu'il existe des procédures à suivre en cas de problème et que les pilotes sont censés les connaître. Ces avions sont sur le marché depuis moins de 2 ans, un peu plus de 370 ont déjà été livrés dans le monde et surtout, plus de 5000 sont déjà commandés. Un enjeu industriel majeur pour Boeing qui reste soutenu par de nombreuses compagnies aériennes, américaines mais pas seulement. En revanche, la Chine, l'Indonésie et la Corée du Sud ont fait savoir que leur 737 MAX resterait pour l'instant cloué au sol, principalement parce qu'un accident apparemment similaire est survenu en octobre dernier avec un appareil de la compagnie indonésienne Lion Air. Le crash avait fait 189 victimes.
Les précisions d'Aurélien Fleureau pour Europe 1. Je vous le disais, parmi les 157 victimes, il y a donc 9 Français, notamment une jeune femme de 36 ans, originaire du Finistère. Elle est la seule pour l'instant à avoir pu être identifiée. Sarah Offray travaillait pour une association dans l'Arctique qui lutte avec l'ONU contre la pollution de la mer par le plastique. Elle devait participer à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi. Carlos Ghosn ne pourra pas assister demain au conseil d'administration de Nissan comme il le souhaitait. Le tribunal a refusé cette requête alors qu'on apprend qu'en France, une enquête a été ouverte sur les conditions de son mariage à Versailles. Le Japon, où une minute de silence a été observée aujourd'hui, 8 ans jour pour jour après le tsunami qui a entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima. Près de 20 000 personnes ont trouvé la mort. On parlait au début de ce journal du Real Madrid et du retour de Zidane en sauveur. Autre club éliminé, vous le savez, de cette Ligue des Champions, le PSG, dont les supporters sont très remontés. On en a beaucoup parlé, ils l'ont exprimé dans un communiqué très sec. Ils étaient hier à l'entraînement pour se confronter aux joueurs. Et information Europe 1, ce soir, le principal club de supporters parisiens annonce un boycott du déplacement prévu demain à Dijon. Julien Froment.
Oui, il devait être 400 demain soir au stade Gaston Gérard, mais selon nos informations, le déplacement des ultras est purement et simplement annulé. Ces mêmes ultras qui étaient hier, vous l'avez dit, au Parc des Princes, 5 à 600 à l'entraînement des joueurs. On en sait d'ailleurs un peu plus sur ce rendez-vous. 45 minutes avec d'un côté Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, équipe MB, de l'autre des représentants du CUP. Les joueurs ont écouté les reproches. Thiago Silva au bord des larmes, selon certains témoins. Du côté du club, on m'a confirmé en tout cas que cette confrontation, c'était une bonne chose. Cela a permis de sortir les joueurs de leur cocon. Aujourd'hui, pour la conférence de presse de Thomas Tuchel, le camp des loges s'est transformé en Fort Knox, avec des agents de sécurité à toutes les entrées pour parer tout débordement. Finalement, aucun supporter n'est venu cet après-midi. Et puis, il y a bien sûr le match de dimanche, le PSG-OM, le retour au Parc des Princes après Manchester. Et bien là, selon nos informations, le tifo qui était prévu pour cet événement est à la poubelle et la direction du club, en cas de nul ou de défaite du PSG, craint des débordements à l'intérieur mais aussi aux abords du stade. D'ailleurs, les forces de l'ordre seront quasiment doublées pour l'occasion.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, bien sûr, Elena Morna. Elena, on ne sait plus trop sur quel pied danser, c'est vrai. En ce moment, dans la même journée, on peut avoir des giboulées, du soleil, de la fraîcheur, de la douceur.
Cette instabilité est de saison, Isabelle. Elle annonce le printemps. Alors demain, fini les giboulées. On en a eu de nombreuses averses aujourd'hui dans le Grand Est. Demain, c'est dans le Nord-Ouest que ce sera agité avec des pluies soutenues, attention, et des vents limite tempétueux sur les bords de Manche dans un premier temps, puis sur les régions du Nord-Ouest, dans les terres l'après-midi, jusqu'au Pays de la Loire, Île-de-France et Hauts-de-France. Attention, ça va souffler jusqu'à 110 km/h en bord de mer, 100 km/h dans les terres. Alors à l'avant, un ciel clément avant l'arrivée des pluies prévues pour la nuit, lesquelles pluies se transformeront en giboulées le lendemain. Demain, mercredi, sur les régions de l'Est avec de la neige en montagne. Concernant les températures, c'est vrai qu'on a eu un coup de frais au nord et de la grande douceur à Nice, par exemple, avec 23 degrés aujourd'hui. Demain, ça monte, mais ça reste bien frais le matin du nord-est à Rhône-Alpes avec moins 4 à 0 degrés. Puis, Nevers, par exemple, va passer de moins 3 à 17 degrés l'après-midi, tandis que sous les nuages de Boulogne-sur-Mer, vous n'aurez que 10 degrés. 13 sous les mêmes nuages nantais ou strasbourgeois, 14 à Paris et Montpellier, 16 à Bourges, Auxerre, Lyon et Marseille, 12 à Bordeaux et Biarritz, 19 à Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Toulouse, 21 pour Tarbes. L'alternance pluie, vent, giboulée, éclaircie va durer jusqu'à vendredi. Samedi, jour de répit et dimanche, jour gris et humide en plaine, gris et neige en montagne.
La météo signée, Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Guy Diamo de boursier.com, juste avant l'invité écho de François Geffrier qui reçoit ce soir le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h16, comme tous les soirs, on retrouve Didier Amaud, rédacteur en chef de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui débute cette semaine en hausse grâce aux valeurs technologiques malgré la chute de Boeing.
Oui, ça grimpe à Wall Street, en particulier sur le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, en forte hausse de plus de 2%. 2,02%, 2,02% exactement, 7558 points. Le Dow Jones gagne plus modestement 0,8%, 25 655 points, malgré Boeing, effectivement, qui corrige de 5%. Le titre perdait plus de 10% à l'ouverture. 5% finalement, c'est la baisse à la clôture de Boeing, 400 dollars tout rond, après le crash donc du Boeing 737 MAX 8 en Éthiopie. Les technologiques sont emmenées par Apple ce soir en forte hausse de 3,5%. Apple à 178,90 $. Le groupe a annoncé une conférence exceptionnelle le 25 mars prochain, sans doute pour annoncer son nouveau service de vidéo, concurrent potentiel de Netflix. Donc Apple prend 3,5% à la clôture. Amazon n'est pas en reste, plus 3%. Autre valeur de technologie entourée, Intel, plus 1,6%. Cisco aussi, plus 1,5%. Le pétrole remonte un petit peu, plus d'1% de repris, 56,80 $ le baril WTI, et Exxon en profite pour gagner 1%, juste sous les 80 $. L'euro remonte un petit peu aussi, 1,1250 $ face au billet vert.
Et la Bourse de Paris aussi est repartie de l'avant.
Plus 0,6%, oui, plus 0,66%, 5266 points. En attendant le nouveau vote aux communes demain sur le Brexit, avec un nouveau risque de rejet. Les largesses de la Banque Centrale Européenne soutiennent encore la tendance boursière, avec les banques en particulier qui remontent. La Société Générale, plus 4,1%, le Crédit Agricole, plus 2,7% et la BNP, plus 2,3%, 43,30 €. De grandes valeurs industrielles remontent aussi, comme Renault, plus 2,7%, comme Schneider, plus 1,7%, avec l'aide de l'agence Moody's qui a relevé la perspective du groupe électrique Schneider, donc plus 1,7% ce soir.
Et c'est l'exception du jour, le titre Safran qui a nettement reculé.
Qui perd 1,6%, l'équipementier aéronautique après le crash donc du Boeing 737. Le groupe n'est autre que le fournisseur avec General Electric du moteur LEAP qui équipe l'appareil. Safran donc perd 1,6% ce soir à la clôture. Sur les autres places financières, ça monte un petit peu partout. Le DAX à Francfort plus 0,7%, Bruxelles plus 0,9%, Madrid plus 0,5%. Des hausses pas très spectaculaires, mais des hausses quand même. Milan plus 0,7%, Londres plus 0,3% et donc le CAC 40 à Paris, plus 0,66%, 5266 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Didier Amaud de Boursier.com. À 22h18, c'est l'heure de retrouver l'invité éco. Et c'est avec vous ce soir, François Geffrier. François, vous recevez ce soir le secrétaire d'État au numérique.
Bonsoir Mounir Majoubi.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On va fêter demain un anniversaire. C'est les 30 ans du web. Vous avez 35 ans, aujourd'hui vous êtes secrétaire d'État chargé du numérique. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir toujours connu le web ?
J'ai l'impression de l'avoir connu très tôt. J'ai eu cette chance de le découvrir à l'âge de 12 ans. C'était au Palais de la Découverte, je me souviendrai toujours de ma première fois. Et avant, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu de vie avant. Parce que pour vous dire la vérité, je me suis révélé à moi-même grâce au web.
Un de vos premiers boulots, ça a été, vous aviez 16 ans je crois, vous avez été technicien chez Club Internet. Est-ce que vous vous souvenez à l'époque de ce que vous pensiez d'Internet, un espace de liberté, je ne sais pas. Est-ce que vous disiez déjà que ça allait tout changer ou c'était juste un petit boulot comme un autre ?
Non, j'étais certain que ça allait tout changer, ce n'était pas un petit boulot comme un autre. Je l'ai fait pendant 8 ans et j'ai tout fait pour le faire, ce job. Et ce job, il était particulier parce que je réparais les connexions des gens. Et donc je voyais ce que ça faisait dans leur vie. Le jour où je reconfigure une boîte mail à une personne de plus de 60 ans qui vous dit « Putain, grâce à vous, j'ai pu me reconnecter à ma famille » et qui pleure au téléphone, eh ben vous êtes heureux. Quand vous reconnectez la connexion d'un étudiant qui n'arrive pas à envoyer son email, vous êtes heureux. Et en fait, on se rendait déjà compte à l'époque, et aujourd'hui c'est une évidence, que ça allait tout changer.
Mais vous étiez sûrement, je veux dire, utopique à l'époque, c'est formidable, on peut tout faire. Aujourd'hui, on parle de projets de loi sur les discours de haine,
mais
etc.
Je vais vous dire une chose, à l'époque, il n'y avait pas Twitter, à l'époque, il n'y avait même pas Facebook. À l'époque, le World Wide Web, web, ça veut dire la toile, ça veut dire la toile d'araignée, vous savez, la toile avec des points, des fils tirés entre tous les serveurs du monde. On n'avait pas prévu que le web allait se transformer en un système où il y a 10 grandes plateformes qui drainent quasiment l'intégralité du trafic, l'intégralité des comptes utilisateurs, l'intégralité des identités numériques, l'intégralité des données personnelles. Là, on est dans un nouveau web. On est dans un nouveau web où il y a beaucoup plus de monde qu'à l'époque.
Mais justement, on
là,
savait pas trop
où
on était. Aujourd'hui, il y a ces quelques grandes plateformes qui sont du coup peut-être faciles à contrôler.
La question, c'est pas forcément le contrôle. Parce que nous, on pense qu'entre le laisser-faire absolu d'un côté et le surcontrôle des États de l'autre, il peut y avoir un chemin entre les deux, qui est une régulation intelligente, qui rappelle la responsabilité qu'on a. Quand on est très gros, quand on a un pouvoir important, on a de grandes responsabilités. Et ça, ils l'ont bien compris et nous leur faisons bien comprendre.
Alors, cette régulation dont vous parlez, aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui est déposée par une députée, Laetitia Avia, soutenue par le gouvernement, qui prévoit d'obliger les sites à retirer sous 24 heures un contenu qui serait raciste, antisémite, homophobe ou sexiste. Déjà, ça s'appliquera à tous les sites ? Le plus petit site, le petit blog ?
Non, ça s'appliquera à toutes les plateformes à partir d'une certaine taille et d'un certain volume d'échanges.
Quelle
L'objectif,
taille ?
C'est tout ce que nous sommes en train de préciser aujourd'hui et que
on
la députée parle de précisera.
2 millions d'utilisateurs actifs par mois.
Oui, ce qui est important, c'est de toucher les plateformes qui touchent le plus de monde. Parce qu'un site qui n'a pas beaucoup de visiteurs, bah, il n'a pas beaucoup d'impact. Donc, on ne va pas lui mettre tout de suite un énorme poids sur lui. Vraiment, l'équilibre des responsabilités, c'est j'ai beaucoup de visiteurs qui viennent chez moi, donc j'ai des grosses responsabilités. J'en ai quasiment aucun, j'en ai pas. Et ça, c'est important de nuancer et de permettre d'avoir une véritable proportionnalité dans l'effort qui est demandé.
Dans cette loi, il y a aussi cette proposition de mettre un bouton sur lequel on pourrait cliquer pour signaler un contenu qui pose problème. Et ce serait le même bouton, la même forme, le même design sur tous les sites. Ça veut dire qu'on peut obliger par la loi Facebook, Google à installer un petit bouton qui aurait été dessiné par Mounir Majoubi ou ses services.
Pour moi, cette chose-là, elle est encore plus importante que la sanction dont vous avez parlé tout à l'heure pour le retrait. La sanction de plusieurs millions d'euros en cas de non-retrait dans les 24 heures, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais avoir à activer. Jamais. Parce que grâce à ça, les plateformes auront mis en place tout le dispositif amont. C'est-à-dire qu'elles auront mis en place un dispositif de signalement universel, facile à comprendre, que tout le monde saura identifier, quel que soit le site sur lequel on est. Elles auront mis en place un vrai accompagnement des victimes. Elles auront mis en place une véritable transparence dans les processus de signalement.
Tout ça, c'est dans la loi.
Tout ça, c'est dans la loi. Et c'est ça qui est le plus important. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une sanction sur le retrait, c'est une invitation qui leur est faite à tout faire pour ne pas y arriver.
Il y a aussi cette taxe GAFA en termes de régulation hein, qui vise à en finir avec l'optimisation fiscale de Google, Apple, Facebook, Amazon et les autres, qui va démarrer en France. Cette taxe, il y a des économistes qui nous disent franchement, c'est une mesure politique, c'est une réponse aux gilets jaunes, mais ça n'a pas forcément de sens économique ou fiscal.
Écoutez, ça fait près de 2 ans et demi qu'on travaille sur cette taxe. Déjà pendant la campagne, dès qu'on est arrivé, nous en avons fait une priorité. Cette taxe aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas la version française qu'on est en train de mettre. Cette version française, c'est parce que nous n'avons pas réussi dans les temps à convaincre tout le monde en Europe et dans le monde. Sauf que depuis qu'on a avancé au niveau national, depuis qu'on a avancé vers une taxe en France sur le chiffre d'affaires pour les acteurs du numérique, eh bien, la discussion au sein de l'OCDE va beaucoup plus vite. Parce qu'elle est là, la solution.
L'OCDE, c'est un organisme qui regroupe une quarantaine de pays et qui vise à
tous les pays qui ensemble font du commerce et ont des systèmes fiscaux qui doivent s'adapter les uns aux autres pour faciliter le commerce de ces entreprises. Mmh. Et bien là, on arrive à une solution et les Américains demandent à ce que nous trouvions un accord avant la fin 2019. Donc il se peut que cette taxe nationale que nous sommes en train de mettre en place n'ait même pas besoin d'être appliquée parce que nous aurons déjà eu une application internationale du dispositif. Moi, je trouve ça formidable.
Mounir Majoubi, vous êtes secrétaire d'État au numérique. Vous êtes lancé dans un tour de France des oubliés du numérique. Et puis, dans le cadre du grand débat national auquel vous avez participé, il y a beaucoup de doléances sur l'accès à Internet dans les zones blanches, celles qui n'ont pas de fibre optique, qui n'ont pas de 4G. Est-ce que là, on peut aller encore plus vite ? Il y a eu des accords avec les opérateurs. Est-ce qu'on peut encore leur mettre plus la pression ou on est déjà au max ?
On doit aller au max sur l'application de cet accord. C'est-à-dire qu'on a fait un accord avec les opérateurs.
Il est sur 5 ans, hein, l'accord, qui vise à en gros couvrir toutes les zones blanches, toutes les zones importantes où il y a des commerces, où il y a des centres-villes qui ne sont pas encore couverts.
Pas juste couvrir avec de la data de qualité. Là où on accélère plus, c'est maintenant qu'on a eu un premier set de poteaux qui a été désigné au mois de septembre, on va, dans la prochaine attribution, aller encore plus vite dans la participation des citoyens et la participation des élus locaux pour désigner ces zones prioritaires. Parce qu'aujourd'hui, on a des cartes virtuelles qui ont été créées par les opérateurs eux-mêmes et qui disent les zones blanches, elles sont là, là, là et là. Ouais. Sauf que dans mon tour de France des oubliés du numérique, les gens, ils vous disent, bah là, c'est pas si sûr que ça, ça marche pas. Donc là, on va rentrer dans un dispositif beaucoup plus participatif pour que les gens aident à décider où on va mettre les prochains poteaux.
Mounir Majoubi, pardon, c'est pas un secret, mais vous avez annoncé mercredi dernier dans le journal Le Parisien votre candidature à la mairie de Paris. Le journaliste vous a demandé si vous alliez démissionner à l'annonce officielle de votre candidature. Vous répondez « Si je suis désigné par la commission du parti en juin, oui ». Mais d'ici là, ça veut dire que pendant 3 mois, vous êtes demi-secrétaire d'État ?
Mais non, ce que j'ai essayé de dire, et c'était pas une nouveauté, c'est que le mouvement La République En Marche va incarner un projet pour Paris. Et qu'ensuite, il faudra qu'on trouve quelqu'un pour incarner ce projet. Ça, on va le décider au mois de juin. Et donc, la raison pour laquelle j'ai dit dans l'interview que oui, je serai là au mois de juin, c'est que d'ici là, on a plein d'autres choses à faire.
Oui, mais d'ici là, vous avez déjà des idées, des propositions sur le logement, les sans-abri.
Le cycle des municipales, c'est pas maintenant.
Les déchets.
C'est pas maintenant les municipales.
Mais sauf que c'est en ce moment que tout le monde en parle, en tout cas La République En Marche.
On a la loi sur les contenus haineux. Aujourd'hui, on a le G7 numérique qui arrive. Aujourd'hui, on a les européennes sur lesquelles on n'a toujours pas annoncé notre liste. Hein, toujours pas. On doit avancer sur ces sujets et les municipales arriveront bien assez tôt. Mais je comprends que les gens s'inquiètent de savoir qui sera là.
Mais c'est pas ça, vous faites une déclaration de candidature dans un journal. Donc on se dit que vous y pensez a priori. Plus que ça, même vous y réfléchissez et vous faites des propositions.
Je l'ai dit très fort, mais si vous suivez mon Twitter depuis plusieurs années, et j'en suis certain, vous voyez que j'ai toujours été extrêmement engagé à Paris et extrêmement engagé dans ma mission de secrétaire d'État au numérique.
Merci beaucoup Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, d'être venu ce soir sur Europe 1. L'interview écho retrouvée demain à 22h20 avec Emmanuel Dutheil.
Merci beaucoup à vous François Geffrier. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. A tout de suite sur Europe 1. Et voici ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens avec le drapeau algérien, évidemment, qui est à la une de nombreux journaux comme Le Figaro ou encore Libération qui titre « Première victoire, Abdelaziz Bouteflika renonce à un cinquième mandat et reporte la présidentielle ». On veut, on voudrait y croire, écrit Laurent Geoffrin. S'il tient parole, Abdelaziz Bouteflika, quittant son costume du but immobile, se rapprochera des bâtisseurs de la liberté, tel un Gorbatchev ou un De Klerk arabe. Il restera alors dans l'histoire comme le grand passeur, celui qui, malgré son handicap, aura senti, compris, entendu l'aspiration profonde de son peuple à l'ouverture et à la modernité, événement extraordinaire, comme il en arrive une fois par siècle dans la saga des nations, s'il tient parole. Même tonalité dans le journal La Montagne, où Bernard Stéphan évoque un futur très opaque. Incontestablement, écrit-il, il y a la victoire de la rue, l'événement doit être apprécié à sa mesure. C'est la première fois depuis 60 ans que le pouvoir recule face à un mouvement. Mais sa réponse, outre le renoncement de Bouteflika au cinquième mandat, esquisse un processus tellement complexe qu'il en est opaque. Par ailleurs, la réalité du pouvoir algérien ne se limite pas au président, mais c'est un iceberg dont la partie cachée est la plus importante et peut-être la plus résistante. Et si le recul annoncé était simplement une stratégie pour mieux pérenniser le régime qui, depuis la guerre d'indépendance, a vaincu chaque crise après avoir souvent donné les signes d'un compromis possible ? Mais la société algérienne a changé, la jeunesse a donné le tempo aux côtés de toutes les générations réunies, laissant les islamistes sans voix. La suite sera aussi importante que ce qui vient d'arriver aujourd'hui. Le journal L'Opinion titre quant à lui sur la face sombre de la transition écologique. L'examen du projet de loi sur l'énergie par le Conseil des ministres, prévu initialement aujourd'hui, a en effet été reporté. Et L'Opinion nous dit que depuis un an, les reports s'accumulent à mesure que les coûts de la transition écologique apparaissent plus clairement. Et puis Boeing affronte une crise majeure, écrit Daniel Fortin dans le journal Les Échos. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, y compris avec Didier Hameau dans la page Bourse. C'est au lendemain du crash, bien sûr, d'un de ses avions en Éthiopie, drame qui a fait 157 morts. L'avion pointé du doigt est l'une des vedettes de sa gamme. Et le problème, c'est que le même appareil, en octobre dernier, s'était abîmé en mer en Indonésie. Or, il est très rare qu'un modèle identique enchaîne deux accidents aussi graves en si peu de temps. Cet avion, version remotorisée du fameux Boeing 737, est aujourd'hui une véritable vache à lait pour le groupe. Il en vole 350 exemplaires dans le monde. Autant dire que cette crise s'annonce pour Boeing comme l'une des pires de son histoire. Enjeu industriel majeur. Et d'ailleurs, on l'a vu, le titre a dévissé à la bourse aujourd'hui. Et voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters, bien sûr, pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Je vous souhaite un très bon début de semaine, une belle émission Sophie.
Merci à vous aussi, à tout à l'heure.